France Culture. Culture, question du soir. Matteo Carantin.
Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la santé, dont le thème est « Ma santé, mon droit », plusieurs organisations syndicales et militantes se sont mobilisées pour défendre l'accès et le droit à la santé pour tous. Depuis la crise de Covid-19, les questions d'information, d'accès aux soins et d'inégalité face à l'institution médicale sont apparues comme des enjeux majeurs qui traversent notre société. La pandémie a révélé notamment comment elles pouvaient être des causes de surmortalité. Alors, sur quoi reposent les inégalités de santé en France? Quels sont les mécanismes qui y mènent? Quelles méthodes utiliser pour les observer? Et comment y répondre? Voilà des questions sur lesquelles notre invitée travaille depuis près de 30 ans. Nathalie Bajos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM, directrice d'études à l'EHESS. Vous êtes aussi responsable d'un projet sur les inégalités de santé axées sur la Covid-19, les maladies cardiovasculaires. Et vous êtes cette année professeur invité de la chaire annuelle Santé publique du Collège de France. Vous avez donné jeudi dernier, 3 avril, votre leçon inaugurale avec un thème qui titre et sous-tend autant votre parcours que le cycle des cours à venir au Collège de France, la production sociale des inégalités de santé. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Questions du soir. Et pour commencer cet entretien, Nathalie Bajos, peut-être revenir justement sur l'exercice de la leçon inaugurale en lui-même, à la fois un moment où on revient sur l'état de l'art et l'état de ses recherches. On présente également un programme de recherche à venir. Antoine Compagnon, qui vous a précédé dans cet exercice, disait « Quand vous arrivez à la leçon inaugurale, vous êtes tendu parce que vous n'ignorez pas que vos nouveaux collègues vous écouteront en se demandant s'ils ont bien fait de vous élire. » Alors, le mot fait sourire. Est-ce que c'est également avec cette approche initiatique que vous avez abordé cette leçon inaugurale, Nathalie Bajos?
Alors, approche initiatique, je ne sais pas, mais c'est évidemment un moment extrêmement important parce que ben voilà, on sait qu'on va être écouté, entendu, critiqué par d'éminents collègues, et puis au-delà des professeurs et professeures du Collège de France, ben, il y a tout un public de chercheurs, de grand public, etc. Donc effectivement, on a une heure pour essayer de montrer que le sujet qu'on souhaite traiter, c'est en même temps faire un état de l'art critique, évidemment s'appuyer sur ses propres recherches, mais aussi faire une revue de la littérature internationale et proposer, oui, une analyse, alors en ce qui me concerne, une analyse sociologique critique pour essayer de comprendre ce qui se joue dans un domaine qui est quand même un enjeu majeur de justice sociale, puisque selon le sexe qu'on a à la naissance, selon la profession qu'on exerce, selon l'appartenance, les positions raciales, les positions de classe, on n'a pas du tout les mêmes chances par rapport à la santé dans toutes les sociétés humaines de tout temps, et en particulier en France, mais vraiment partout.
Nous allons revenir justement sur à la fois les facteurs, les causes et les conséquences de ces inégalités de santé avec vous. Je vous propose d'abord d'écouter une voix, celle de Françoise Héritier, première femme à occuper la chaire d'anthropologie du Collège de France. Elle était l'invitée d'Avoix Nues en 2017.
La valence différentielle des sexes, c'est en fait un rapport presque algébrique qui est fondé sur aussi un invariant. Un de ces invariants, c'est de dire que ce qui vient avant est supérieur à ce qui vient après. Donc les parents sont, et c'est pris sur le modèle de la génération, les parents sont supérieurs aux enfants et les aînés sont supérieurs aux cadets. Donc on pourrait l'écrire par une équation, le rapport aîné-cadet est au rapport parent-enfant ce que le rapport antérieur-postérieur est au rapport supérieur-inférieur.
D'accord.
Et puis, par un glissement tout à fait étonnant, le rapport masculin-féminin s'est glissé dans ce type de rapport, et on dit que le rapport masculin est traité comme un rapport aîné-cadet, donc comme un rapport parent-enfant, donc ce qu'on voit dans les systèmes de parenté, et qui implique donc une supériorité sur une infériorité.
La voix de Françoise Héritier qui parle de son concept de valence différentielle des sexes. Comment s'est construit, à partir de quel constat s'est construit votre sujet de recherche, Nathalie Bajos?
Alors, d'abord, je suis très émue d'entendre Françoise Héritier parce que c'est vraiment une très très grande anthropologue et que ce qu'on vient d'entendre, c'est voilà, je m'inscris vraiment dans la lignée de ce type d'approche avec des termes et qu'elle n'utilisait pas forcément à l'époque, mais en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui en sociologie des rapports sociaux de domination. Elle évoque les rapports d'âge, parents-enfants, elle évoque les rapports de genre, même si au départ c'était les rapports sociaux de sexe. Et pour analyser les pratiques sociales et dont les pratiques de santé, on tient compte de ces rapports. Aujourd'hui, on ajoute également les rapports de classe dans cette analyse, et puis également, de manière encore plus récente, ce qu'on appelle les rapports sociaux de race. Non pas que la race biologique existe, hein. Il est clair que depuis la fin des années 60-70, il est établi qu'il n'existe qu'une race biologique, mais pour reprendre l'expression d'une autre grande chercheuse française, Colette Guillaumin, si la race n'existe pas, la race tue. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'appréhender ces inégalités sociales de santé au carrefour de différents rapports sociaux qui structurent toutes les sociétés humaines, à savoir les rapports de genre, de classe, de race, pour ne citer que les principaux, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux. Et ces rapports façonnent toutes les pratiques sociales, dont les pratiques de santé. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le cadre théorique général. Ensuite, pour comprendre comment se produisent ces inégalités de santé, qui sont peut-être, je vais pas donner 50 chiffres, mais quand même...
Justement, vous posez, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui
alors,
des inégalités de santé en France ?
On sait beaucoup de choses d'un point de vue des statistiques de mortalité. Enfin, beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie, à un certain âge, l'espérance de vie, c'est tout simplement le nombre moyen d'années qu'on peut espérer vivre à un âge donné. Donc, on parle souvent d'espérance de vie à la naissance, on peut parler d'espérance de vie à 35 ans ou à 60 ans, etc. Pour ne donner qu'un exemple, si on prend les espérances de vie à 35 ans, eh ben, l'écart entre les femmes qui disposent d'un revenu de moins de 3 000 euros par mois, par rapport à celles qui disposent d'un revenu par mois supérieur à 6 000 euros par mois, il y a près de 8 ans d'écart d'espérance de vie. Pour les hommes, c'est près de 12 ans. Donc vous voyez qu'entre deux groupes sociaux, on a un nombre d'années absolument incroyable d'écart d'espérance de vie. Donc ça résume une inégalité quand même absolument incroyable. Alors si on déclinait ce même chiffre selon, en tenant compte également des positions professionnelles, en tenant compte également de l'appartenance à une minorité racisée, les écarts seraient encore plus importants. Mais en tout cas, déjà, avec ces indicateurs simples, on voit que c'est quand même énorme d'avoir 12 ans de plus ou de moins à vivre dans une vie à partir de 35 ans. Donc ça, on sait que ces inégalités existent, mais ce qui manque, c'est l'analyse des mécanismes qui produisent ces inégalités. Je dirais qu'on a le constat, même s'il est loin d'être parfait, parce qu'on manque encore de données, notamment en France, qui permettent de caractériser mieux ces inégalités. On a en gros le constat, ce qui nous manque, c'est l'analyse des processus qui construisent ces inégalités.
Et c'est toujours la mortalité, le constat. C'est-à-dire l'élément clé de compréhension et de...
On aimerait disposer d'autres indicateurs comme la morbidité, le ressenti, etc. C'est plus compliqué pour des raisons statistiques. La mortalité, on l'a parce qu'on a l'âge du décès pour tout le monde. Donc ça, c'est une statistique d'état civil. Après, ça s'appuie plus sur des recherches. Mais effectivement, on a aussi dans toute une série de recherches et de démographie ou d'épidémiologie sociale, on a toute une série d'indicateurs qui permettent d'attester de ces inégalités. Pour donner un autre exemple, ce qu'ont montré mes collègues de l'INED, c'est que au moment de la pandémie de Covid-19, par rapport aux personnes qui sont nées en France, les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne avaient une probabilité, un sur-risque de mortalité qui était extrêmement élevé pour les femmes et pour les hommes donc nés dans un pays d'Afrique subsaharienne ou nés en France, par rapport aux personnes nées en France. Et ce risque était de près de 18 fois plus élevé pour les hommes et près de 16 pour les femmes.
Vous dites que c'est un révélateur des rapports sociaux de domination.
Pourquoi les personnes, du simple fait de leur lieu de naissance, ont connu une surmortalité aussi élevée? Et ce qu'on a pu montrer grâce à des enquêtes, c'est que une partie de cette surmortalité est liée au fait que les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne vivaient plus souvent dans des zones où l'épidémie était particulièrement prévalente, mais on a surtout pu montrer également que cette surexposition au virus, en fait, elle était liée à deux choses très importantes. Les conditions de vie, c'est-à-dire où est-ce que vous vivez, dans un logement surpeuplé, dans une zone à forte densité, et puis quel travail vous aviez. Est-ce que vous aviez besoin d'utiliser les transports en commun tous les jours pour aller travailler? Est-ce que vous occupiez des emplois dits de première ligne? Et on a montré que c'était ça qui expliquait cette surmortalité des personnes nées en Afrique subsaharienne, et non pas le fait qu'elles auraient moins souvent adopté des pratiques de prévention. On a montré qu'au contraire, elles en adoptaient plus que les personnes qui n'étaient pas racisées. Donc vous voyez, on a, grâce à des enquêtes, on commence à avoir des indicateurs, mais la statistique ne suffit pas.
Nathalie Bajou, vous avez coordonné 3 grandes enquêtes sur la sexualité des Français. En 92, c'était dans les années SIDA. La deuxième, c'était au milieu des années 2000. Vous avez d'ailleurs publié un livre à ce propos, Enquête sur la sexualité en France, pratique, genre et santé. La dernière en 2024. Des enquêtes qui ont un aspect quantitatif. Pour la dernière, je crois, vous aviez interviewé 30 000 personnes aussi, qualitatif. De quelle manière est-ce que ces enquêtes sur la sexualité vous ont permis de réfléchir aux mécanismes qui participent à la construction des inégalités de santé?
Alors en fait, effectivement, le champ de la sexualité et des questions de santé sexuelle, c'est une partie de mon activité. Par ailleurs, je travaille aussi beaucoup sur le Covid, sur les maladies cardiovasculaires.
Vous avez fait le lien entre...
J'ai fait les deux. Enfin, pour la dernière enquête, j'ai un peu tout fait en même temps. Mais si vous voulez, l'exemple de la sexualité, des sexualités pour être précise, et pas... Enfin, en France et pas uniquement des personnes françaises. En tout cas, ces questions-là, il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux notamment par rapport au VIH, SIDA. Il y a des enjeux de discrimination. Je pense en particulier au phénomène qu'on retrouve partout. L'enjeu, l'importance des discriminations, par exemple, pour expliquer que les personnes ne s'engagent pas dans des démarches de prévention, pour montrer que ça va bien au-delà de la question de l'information et ça va bien au-delà de la question de mettre à disposition des moyens de prévention. Si on prend l'exemple des jeunes gays, par exemple, le fait qu'il y ait encore, et surtout au début de l'épidémie, une forte homophobie, ça conduisait les jeunes gays à avoir des vraies difficultés à accéder au réseau de prévention, parce qu'ils se sentaient totalement mis en cause dans leur propre vie sexuelle. C'est-à-dire le taux de surmortalité des jeunes homos est beaucoup plus élevé que des jeunes hétérosexuels du même âge. Donc quand vous vous sentez aucune place dans la société dans laquelle vous vivez, vous êtes peu enclin à adapter une démarche de prévention. Et ce phénomène-là, en fait, on le retrouve partout. On l'a retrouvé pour le Covid, on le retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que pour être capable de s'inscrire dans une démarche de prévention, je dirais qu'il y a 2 facteurs clés. D'abord, avoir envie de vivre dans la société dans laquelle on vit. Donc si sa propre sexualité n'est même pas acceptée, c'est un problème. Si on est discriminé tous les jours à cause de la couleur de sa peau, c'est un problème. Donc il faut avoir envie de vivre dans cette société. Et puis il faut que les moyens de prévention qu'on cherche à ce que vous puissiez adopter, il faut qu'ils soient compatibles avec vos modes de vie. J'ai pris l'autre jour l'exemple de l'alimentation. Il y a une crise majeure d'obésité. Mais quand on enjoint les personnes à adopter une alimentation saine. Mais ça coûte très cher, une alimentation saine. Donc, il y a un premier enjeu, c'est que les actions de prévention soient compatibles avec les contextes de vie dans lesquels les personnes vivent, que ce soit des conditions de travail ou des conditions de vie en général. Mais les actions individuelles de prévention sont loin d'être suffisantes.
Il y a un autre espace où s'articulent ces inégalités de santé et où elles se déploient, c'est dans la manière dont s'organise le dialogue médical.
Oui, ça c'est une des parties, mais peut-être pour être le plus clair, la plus claire possible dans ce qu'on voit à la fin, finalement, c'est les inégalités en termes de mortalité. En fait, au départ, c'est des inégalités dans l'exposition au risque, selon le lieu où on vit, selon le métier qu'on a, selon les conditions de vie. C'est déjà c'est toute la problématique des risques environnementaux qu'on connaît bien. Ça, c'est les risques les plus importants. Ensuite, quand on est confronté, quand sa santé est altérée, effectivement, certaines personnes vont ressentir des symptômes, d'autres non. Et puis ensuite, certaines vont recourir au système de santé, d'autres non, et certaines vont être prises en charge de manière différente selon les caractéristiques seules par les professionnels de santé. Et donc pour revenir à votre question qui était sur la façon dont on est pris en charge, on a un certain nombre d'études qui montrent, et ce sont surtout des études qualitatives qui permettent de montrer que dans l'interaction entre les malades et les professionnels de santé, il y a un phénomène qui est bien connu et qui est assez simple à comprendre en fait, c'est que quand on est issu du même milieu social que les professionnels de santé, les échanges sont plus fluides. Les échanges sont plus fluides parce qu'on est plus à même de rapporter au médecin des symptômes qui font sens pour le corps médical lui-même et qui va mieux les écouter et qui va donc en conséquence adopter de manière plus efficace sa pratique médicale. Mais quand on est situé loin socialement du milieu médical et que de surcroît les professionnels de santé, parce que ce sont certes des professionnels de santé, mais ce sont aussi des acteurs sociaux qui sont en empreint de représentation, de jugements discriminatoires, et qui, ces jugements discriminatoires, dont certains sont d'ailleurs, leur sont inculqués sur les bancs de la faculté. Et donc, ce qu'on a montré dans un certain nombre, enfin, je dis on, c'est beaucoup de mes collègues, hein, c'est que toute cette interaction entre les malades et les professionnels de santé se jouait différemment selon les positions sociales des personnes, et que ça pouvait jusqu'à aller occasionner une véritable perte de chance pour certains groupes sociaux. Et il se trouve que ce qu'on montre, c'est que les pertes de chance sont majorées parmi les groupes sociaux qui, déjà, sont des groupes plus exposés au risque de par leurs conditions de vie et de travail.
Et vous parlez notamment de différences entre les hommes et les femmes à ce propos. Vous parlez d'une notion, celle de corps mécanique, corps systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le corps mécanique, le corps systémique, dans la manière d'approcher ses propres symptômes face à l'institution médicale?
Alors, en fait, ça renvoie à des enjeux de socialisation dès la naissance, j'ai envie de dire. Ce qu'ont très bien montré les sociologues qui travaillent sur ces sujets-là, c'est qu'on apprend, pour reprendre ce que disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas fille, on le devient, enfin, etc. Donc, il y a tout un processus de socialisation qui enjoint les femmes en particulier à être beaucoup plus attentives aux autres, aux problèmes de santé, parce que quand elles seront adultes, donc dès qu'elles sont très jeunes, quand elles seront adultes, elles vont beaucoup plus s'occuper de la santé de leurs enfants, mais également de leurs ascendants. Et donc, elles ont un rapport au corps qui est beaucoup plus global. Donc, j'ai appelé ça le corps systémique. Et donc, elles vont s'alerter beaucoup plus facilement quand un symptôme va mettre à mal leur rôle social. Un exemple très simple, la fatigue. La fatigue, par exemple, comme les femmes, encore aujourd'hui, même si les choses ont un peu évolué, sont plus à même d'être fatiguées parce que, en dehors de leur travail, enfin, en plus de leur charge de travail, elles assurent majoritairement les charges de tâches domestiques et éducatives. Donc, elles sont plus sensibles, confrontées à la fatigue dans leur vie quotidienne que leurs homologues masculins. Et donc dès qu'elles vont avoir des symptômes qui vont mettre à mal leur rôle social, elles vont plus y porter attention et plus les déclarer. À l'inverse, les hommes qui sont socialisés dès leur plus jeune âge à tout ce qui est la mise en avant de leur capacité physique, le football, etc., etc., eux vont s'alerter davantage quand un symptôme va toucher un organe particulier. Et pour eux, la vision qui se développe, c'est beaucoup plus une vision de corps mécanique. Et ce qu'on a montré, ce qui est très intéressant, c'est que face à un infarctus du myocarde, par exemple, les femmes et les hommes ne déclarent pas les mêmes symptômes, alors même qu'il n'y a pas, et je crois que c'est ça qui est important, il n'y a pas d'hypothèse physiopathologique qui pourrait expliquer que les hommes déclarent plus de douleurs thoraciques et que les femmes déclarent plus de fatigue. Donc c'est vraiment, la sociologie est un levier d'analyse extrêmement puissant, et on retrouve la même chose sur le Covid long, et on retrouve la même chose sur la
question
sexualité.
De l'infarctus du myocarde, c'est que les femmes sont moins enclines que les hommes à en souffrir, mais elles sont proportionnellement plus enclines à en mourir, justement parce que la manière dont elles expriment leurs symptômes sont moins entendues, moins comprises par le corps médical.
Alors, c'est ce que moi j'appelle un paradoxe épidémiologique, quoi. Les femmes, elles sont moins à risque d'avoir un infarctus du fait de leur mode de vie, mais effectivement, quand elles ont un infarctus, elles ont plus de risques d'en décéder. Et on montre très clairement, c'est pas qu'elles évoquent pas les douleurs thoraciques quand les médecins écoutent bien, c'est qu'elles ont l'habitude d'avoir un rapport à la santé beaucoup plus global, donc elles vont citer plein de symptômes. Les médecins entendent moins les symptômes dits typiques, et surtout, il faut pas s'arrêter là, les recommandations médicales, les recommandations de la Société européenne de cardiologie enjoignent les médecins à ne pas traiter les femmes et les hommes de la même manière, à âge égal et à symptômes équivalents. Donc en fait, les médecins, ils reproduisent aussi ce qu'ils ont appris.
Vous avez dans le discours des soignants, donc il y a 10 ans, très clairement, au moment où j'ai conduit la recherche, des soignants qui vous disent « Les femmes nées en Afrique subsaharienne, elles accouchent extrêmement bien ». Cette donnée n'est pas confrontable à des réalités épidémiologiques. En fait, le groupe des femmes nées en Afrique subsaharienne en France est celui qui est le plus césarisé. Donc on ne peut pas dire « elles accouchent bien ». C'est-à-dire que si tous les soignants vous disent « je trouve que ces femmes accouchent bien », on peut imaginer que sur cette stéréotypie positive, cette femme va bien accoucher. Du coup, j'ai confiance en la manière dont elle va mettre son enfant au monde et je vais peut-être la laisser aller un peu plus loin qu'une autre sur une situation que je trouverais un peu à risque. Je sais qu'elle va bien pousser, je sais qu'elle va être plus autonome. Donc, par exemple, on voyait pour le coup dans nos bases de données des taux de forceps, donc d'extraction instrumentale, qui étaient très faible pour le groupe des femmes nées en Afrique subsaharienne.
La voix de Priscille Sauvegrin, sociologue et sage-femme à la maternité de la Pitié-Salpêtrière dans la série LSD, La santé autrement, diffusée en mars 2023. Vous parliez tout à l'heure que dans les études, vous preniez en compte la classe, le genre, la race, dans le sens de raciser. C'est ce qu'on appelle l'approche d'intersectionnalité. Comment est-ce que se déploie cette étude et comment est-ce que vous faites face aujourd'hui aux attaques contre l'approche intersectionnelle qui est englobée dans ce que on appelle médiatiquement ce qui est appelé woke?
Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effectivement une alors tout est mélangé, mais l'approche intersectionnelle, elle est effectivement rejetée par beaucoup de personnes, enfin beaucoup, par un certain nombre de personnes en tout cas. Moi, j'ai envie de dire que la seule réponse, c'est la réponse scientifique. La réponse scientifique, c'est que on doit décrypter, c'est notre rôle de chercheuse et de chercheur, on décrypte une réalité sociale complexe. On s'est rendu compte pendant des années que mettre les lunettes de classe sociale, bah, c'était très efficace, ça permettait de rendre compte de toute une série de choses. Quand on a rajouté les lunettes de genre, on a vu la réalité sociale de manière différente. Il faut rappeler que jusque dans les années 1970, ni la statistique publique, ni le monde académique ne s'intéressait entre les différences entre les hommes et les femmes. On publiait pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, on publiait globalement. Donc on a eu d'abord la classe sociale, ensuite on a eu le genre qui a provoqué un certain nombre de réticences de la part des chercheurs qui travaillent sur les classes sociales, et puis est venu s'ajouter les rapports sociaux, sont venus s'ajouter les rapports sociaux de race qui ont aussi provoqué un certain nombre de réticences et qui en provoquent toujours un certain nombre. Et moi, je dis, la réponse, c'est regardez ce qu'on voit dans nos études, dans nos analyses, si on intègre de surcroît les rapports sociaux de race. Et on voit des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus fines. Alors, je crois qu'une des raisons, et je pense aux travaux de mes collègues de l'INED et en particulier de Patrick Simon sur ce sujet, c'est en réaction aussi à un certain modèle universaliste français qui pense que on a tous les mêmes droits, quelles que soient nos conditions, notre religion, notre race, etc. Et que si on intègre la race, on risque de créer des groupes distincts et de casser l'universalisme républicain. Mais moi, je pense qu'au contraire, on est encore plus universaliste quand on tient compte de tous ces rapports qui sont socialement construits et qui créent des réalités, qui créent des différences spectaculaires, comme on le rappelait au début, pour ce qui concerne le domaine que je connais. On a des analyses beaucoup plus fines. Donc, je veux dire que qu'on nous explique en quoi les travaux qu'on mène avec une approche intersectionnelle sont problématiques. Je veux dire que la critique, elle est jamais scientifique, en fait. Elle est toujours totalement idéologique. Donc, c'est un champ scientifique récent, l'approche intersectionnelle, qui date depuis le début des années 2000. Il y a énormément de débats théoriques et méthodologiques. Et comme tout champ scientifique récent, il est ouvert à la critique, mais à une critique scientifique. Sinon, je peux dire, la Terre est plate. Voilà.
Nous avons reçu Quentin Lafay, qui présente cette émission, avait reçu Robert Proctor, professeur d'histoire des sciences à l'université de Stanford, qui lui parlait d'une véritable guerre menée contre le savoir et la recherche aux États-Unis, pour sortir du cadre purement français. Il parlait d'une politique de l'ignorance. Est-ce que la politique de l'ignorance peut mener, elle aussi, à des inégalités de santé, Nathalie?
Oui, absolument, absolument. Ben, tout simplement parce que pour mener des politiques de santé efficaces qui visent à réduire des inégalités, si vous comprenez pas comment ces inégalités se construisent, se produisent, vous allez faire des campagnes d'information pour dire ne fumez pas, ne buvez pas trop, ne mangez équilibré, etc. Et on va en rester là. Si on veut vraiment mettre en place des politiques efficaces, il faut comprendre comment se produisent ces inégalités. C'est tout le travail que je fais avec beaucoup de collègues. C'est l'objectif, il est vraiment là, c'est de dire les inégalités, elles se produisent de telle et telle façon. Si on refuse, imaginez qu'on dise on regarde pas selon le sexe. Imaginez, on ne regarde pas les différences, on ne verrait pas, on serait incapable de comprendre pourquoi les femmes meurent plus d'un infarctus que les hommes alors qu'elles sont moins touchées. Donc ça ne nous viendrait plus à l'esprit de dire aujourd'hui, on regarde pas selon le sexe, donc on regarde pas selon le diplôme. Donc pourquoi on regarderait pas selon la position raciale, dont on sait, toutes les études le montrent, à quel point elle est déterminante pour rendre compte de différences de santé. Donc je rejoins tout à fait ces propos. On est dans une politique de l'ignorance. Et moi, vous citiez les États-Unis à l'instant. Bon, la situation actuelle, il y a pas besoin de la rappeler. Je veux dire, il est clair que je travaillerai pas, j'aurais pas le droit de travailler aux États-Unis sur les sujets sur lesquels je travaille. Mais au-delà de ça, il faut aussi avoir conscience qu'en France même, on a des personnes qui s'opposent à ces approches. Encore une fois, qu'on s'y oppose, c'est bien, c'est normal, il y a débat, on n'est pas tous d'accord d'un point de vue théorique, mais qu'on débatte sur un point de vue théorique et pas idéologique. Et on voit la force de ce mouvement d'opposition à ce type d'approche. Il y a qu'à voir la publication très récente ou à venir d'un livre aux presses universitaires de France. Que les presses universitaires de France publient sur ces questions-là, c'est très bien, mais avec des scientifiques, pas avec des essayistes ou des personnes qui n'ont aucune compétence scientifique. Donc ce qui est dangereux, c'est le déplacement. Parce que sinon, voilà, on peut faire dire effectivement n'importe quoi à la science. Donc débattons, mais débattons scientifiquement.
Le collège est un lieu de débat scientifique. Vous allez justement continuer votre cours sur la production sociale des inégalités, mais l'émission arrive déjà à sa fin. Nathalie Majos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM, directrice d'études à l'EHESS et donc, nous l'avons beaucoup dit, professeur invité de la chaire santé publique au Collège de France. Voilà, c'est la fin de Questions du soir. Merci à toute l'équipe. Cet entretien a été préparé avec Pascaline Bonnet et Roxane Poulain. La programmation Stéphanie Villeneuve, à la réalisation François Richer et ce soir à la technique Marie-Claire Oumabadi.
Merci beaucoup.
France Culture.